Je suis née la première génération d'Algériens nés en France. Mes parents sont venus travailler comme on faisait dans les années 60. Voilà, c'était une immigration économique. Mes parents venaient d'un petit village de Kabylie. Donc moi, j'ai vraiment été complètement imprégnée par la culture française, on va dire. La culture, voilà, je suis vraiment la première génération. Voilà, j'ai fait des études et surtout j'ai fait du théâtre. Je suis comédienne depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours fait ça, que ça en fin de compte. Pour résumer, le conte est arrivé un peu vers 40, 45 ans parce que tout simplement, j'ai pris conscience que mes parents vieillissaient et qu'ils allaient partir, voilà, et que j'ai voulu raconter un peu. Quelque part, c'est une façon de raconter leur histoire, de raconter des histoires pour moi. Parce que c'est aussi raconter leur exil et surtout raconter leur silence. Parce que comme pas mal d'immigrés, en tout cas mes parents, mais certainement de cette immigration, n'a pas trop raconté ce qu'ils ont vécu. Ma mère se racontait un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est aussi le conte pour moi, c'est aussi une façon de boucher les trous, ces silences voilà, de mes parents, tout simplement. Et aussi de me remettre dans ces. Parce que j'étais comédienne, mais comment dire, ma langue, c'est le français. Comme je dis, la langue du dehors était le français, la langue du dedans était le kabyle, parce qu'on parlait kabyle à la maison. Mais pendant très longtemps, je voulais être que française. Cette langue kabyle, pour moi, n'était pas elle n'était pas importante, enfin, elle n'était pas nécessaire, quoi, pour moi, quoi. Je rêve en français, donc je me suis toujours dit, je suis française, je ne suis pas algérienne, parce que je n'ai pas vécu ni en Algérie, et surtout, je n'ai pas, pour moi, j'avais l'impression de ne pas avoir intégré cette culture kabyle. Et pourtant, je l'avais en moi, parce que j'ai parlé, étrangement, j'ai parlé d'abord le kabyle avant de parler le français. Pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 7 ans, je ne parlais pas un mot de français. Donc, je suis même moi-même étonnée de savoir comment est-ce que j'ai dû sacrifier peut-être une langue pour l'autre. Peut-être. Voilà. C'est ce qui m'a semblé à un moment donné. Comment j'étais obligée, peut-être par survie à l'époque, quand on est petite fille. On a envie d'être comme tout le monde, donc et puis la langue du dedans, l'algérien, le kabyle, avec des parents pauvres, pas forcément, c'était pas quelque chose que j'avais envie de mettre en avant pendant très longtemps. Là, c'est un peu en vrac, hein, ce que je raconte.
Ouais, mais c'est très clair et très touchant.
Donc voilà, donc le conte est arrivé vers 40 ans, étonnamment, j'ai fait parler mon père à travers mes histoires, d'abord, l'exil de mon père, qui m'a jamais parlé de son exil, comme tous les Algériens fiers et enfin, mutiques aussi. Voilà, j'ai fait parler mon père, c'est un peu osé, hein, et ma mère aussi.
Et donc ils ont parlé du parcours, de leur parcours, de leur
Oui, moi,
parcours migratoire, de leur parcours de vie.
j'entends pas bien, pardon.
Ils ont parlé du parcours migratoire ou de leur parcours de vie ou des histoires que tu as reprises, des histoires que eux-mêmes avaient entendues, qu'on leur avait racontées.
Ma mère me racontait pas mal d'histoires quand j'étais petite, en langue kabyle, hein, parce qu'elle m'endormait avec. J'ai pris ses contes, mais je les ai pris comme pour. Comment dire, comme protection, c'est pas ça, mais comme voile ou comme. J'avais envie de dire des choses sur l'immigration de mes parents, mais je voulais pas les dire de façon réaliste. Et le conte m'a aidée, en fin de compte, à raconter ces histoires. Le prince Ali qui veut découvrir le monde, c'est mon père, qui est venu en France travailler dans des usines. Voilà. J'ai besoin de ces contes traditionnels. Pour dire des choses, quoi, ça m'aide beaucoup.
Oui, je crois que c'est ce qu'ils font très souvent, les contes, de pouvoir parler de ces choses-là en les mettant un peu à distance
Oui, en les
aussi.
mettant un peu, ouais, en les mettant à distance ou en les, voilà, c'est aussi rendre hommage aussi à mes parents peut-être, qui n'ont pas forcément eu une vie facile, mais c'est aussi leur magie, le côté extraordinaire de ma mère qui cuisinait tout le temps. Donc je la mets dans sa cuisine, qu'elle devient une ogresse, elle devient une fée, voilà, une magicienne en tout cas, une magicienne. Voilà, et ça devient l'ordinaire devient l'extraordinaire. C'est comme ça que je, voilà, donc ça devient un conte.
Et comment s'appelle l'ogresse chez les Kabyles? Elle a un nom particulier
Alors, il
avec
y
un
a deux
pays?
noms. Il y a, bon, il y a, moi, enfin, mes parents sont de la petite Kabylie, donc ils disent le Rola, qui est aussi une façon de prononcer le mot arabe. Je crois que le Rola, c'est l'ogresse en arabe aussi.
Ouais.
Et il y a Tseriel,
Voilà.
Tseriel. Qui est
Tériel.
le nom aussi kabyle de l'ogresse.
Est-ce que les femmes parlent beaucoup entre elles? Est-ce que ta mère, tes tantes, te parlaient beaucoup?
Oui, ma mère me parlait quand même, mais moi, comme toute adolescente et jeune fille des années 80, on va dire, 70-80, qui rêvait de s'émanciper, ça m'intéresse. Enfin, je l'écoutais d'une oreille, c'est vraiment, je l'écoutais d'une oreille. Et pourtant, je pense qu'elle m'a dit des bouts, elle m'a dit des petits bouts d'elle-même, des petits bouts que je n'ai pas relancés, mais on regrette tous, après, quand les parents sont plus là, de ne pas leur avoir posé peut-être plus de questions. Et pourquoi on ne les pose pas? Alors là, ça, c'est encore une autre histoire, mais quand ma mère me dit qu'elle s'est mariée à 14 ans, donc c'est pas, elle s'est mariée, on l'a mariée à 14 ans, on l'a mariée à 14 ans, mais. Quand elle me dit entre deux mots, mais tu sais, ton père m'a attendu, il a été gentil, il m'a attendu, c'est aussi une façon de parler et de dire des choses intimes sur elle. Voilà, elle m'a dit par petits bouts, des petits bouts d'histoire que moi j'ai recollés comme j'ai pu. Voilà, je sais
Entre
pas.
deux, il y a Julie Boite qui nous rejoint. Coucou Julie.
Bonjour.
Coucou Julie.
Salut.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Aini?
Moi, je voulais lui demander quelque chose. J'ai un copain kabyle et sa grand-mère lui disait, écoute avec ta troisième oreille. Est-ce que tu as entendu parler de ça?
Ah non.
C'est-à-dire une autre oreille quelque part en soi.
Quelque part en soi. Ben oui, il y a plein de contes kabyles, il y a plein de proverbes comme ça kabyles qui disent plein de choses intéressantes. Oui. Mais je ne connaissais pas celle-là, elle est jolie. Bon, voilà, hein, je ne sais pas comment on peut.
Ben, parler d'IEM, parler de ton récit alors maintenant.
Oui, alors mon récit sur. Sur, alors, donc, ma mère m'a quand même raconté des choses importantes parce qu'elle fonctionnait avec beaucoup sur la création du monde, cosmogonie. Elle avait une cosmogonie, comme plein de Kabylons. C'est-à-dire, la Terre est divisée en sept mondes. La Terre est portée sur l'épaule d'un taureau. Alors, quelquefois on dit les cornes, ma mère disait l'épaule, et que quand la Terre bougeait, c'était parce que le taureau avait mal à l'épaule droite, il fait basculer la Terre sur l'épaule gauche. La première mère du monde, celle qui a tout créé, c'est la mère de l'humanité, elle a créé le soleil, elle l'a fait tomber dans une marmite, ça a été la première éclipse. Donc, elle avait tout cette façon de fonctionner. Donc, je me suis inspirée de cet homme parce que, comme elle me disait, avant l'homme vivait sous terre. J'ai pour mon histoire là de Yem, j'ai pris cet homme qui vivait sous terre, qui voilà, qui était et qui à un moment donné attirait. Et donc il y a des personnages et des symboles que j'ai mis dans ce conte-là qui sont des symboles kabyles, comme la fourmi. La fourmi qui est la savante, celle qui sait. Alors, c'est-à-dire les premiers hommes, quand ils ne savaient pas trop à quoi servaient les choses, eh ben, allaient demander à la fourmi à quoi ça servait. Donc la fourmi disait, voilà, ça sert à ça, ça sert à ça. Donc j'ai mis dans ce récit une fourmi qui l'initiait, qui l'initiait aussi à l'extérieur, puisqu'une fois qu'il arrive, que ce personnage de Yem arrive sur Terre, un peu perdu dans le noir, il tombe sur cette fourmi. Cette fourmi, avant, lui apprend des choses et lui apprend le langage du dehors. Donc, je me suis inspirée de ça, de cette cosmogonie, beaucoup.
Et quand tu dis que Yem, comme tous les autres hommes, vivait sous terre, en fait, c'est comme tous les autres êtres humains.
Oui.
On ne précise pas si Yem est un homme en tant que tel ou une femme.
Non, je reprécise. C'est l'être humain. C'est l'être humain qui vivait. On le dit pas. C'est vrai, on ne le clarifie pas. Il n'y a pas de... C'est pas... Après, dans la cosmogonie, dans l'histoire de la Kabylie, je ne sais pas si vous avez lu le Frobenius, mais il y a, c'est, voilà, après, les hommes et les femmes se retrouvent. Enfin, c'est plus, mais au début, l'être humain est sous terre. Il vit sous terre.
Et donc, Frobenius, il y a deux R.
Frobenius.
On l'évoquait ce matin. Il y a quatre tomes des contes kabyles. Un ethnologue, je crois, fin 19e. Hein.
Oui, c'est ça.
Allemand,
oui,
je crois. Ethnologue allemand, fin 19e. Et vous avez, il y a Le Facétieux, Les Contes de Sagesse, et j'ai oublié le titre des deux autres.
Le Monstrueux. Le Merveilleux.
Avec celle de la Thyrienne, justement. Le Merveilleux.
La Sagesse.
Et dans La Sagesse, c'est là où j'ai découvert que les Kabyles prétendaient connaître l'origine de Nasreddin. Et que Nasreddin n'avait pas toujours été le Nasreddin malin. Mais qu'il était au préalable un bon fils à maman, respectueux de toutes les règles qui lui avaient été enseignées. Et donc, j'ai promis tout à l'heure que je raconterai ce soir cette version-là de l'origine de Nasreddin. Comment Nasreddin est devenu le plus grand des malins. L'histoire qui a fait basculer. Dans les Kabyles se revendique aussi. C'est toujours appelé Nasreddin.
Pardon ?
Nasreddin est toujours appelé Nasreddin par les Kabyles.
Oui, c'est un personnage qui existe aussi. Ouais. Ma mère ne m'en racontait pas, hein, mais. Voilà, oui. Il est connu partout, lui. Il est vraiment.
Oui, mais il y a Jora, Hodja.
Oui, selon les régions, selon les pays,
c'est ça. Jora. Et pour les Kabyles, ça reste Nasreddin.
Nasreddin.
Ouais. Mais donc, revenons au nôtre de Yem, qui sort de dessous la terre. Après avoir reçu les enseignements de la fourmi.
La fourmi, oui, qui est un peu celle qui l'initie à l'extérieur et qui lui dit, c'est la langue. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Hein, on parle toujours un peu de soi dans les histoires. Moi, quand j'étais petite fille, c'est vrai que je parlais le kabyle à la maison, donc c'était un lieu protégé où on parlait que le kabyle. Et quand tout à coup j'ai été plongée dans l'extérieur où on m'a mis à l'école, ça a été pour moi terrible parce que je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait. Et cette langue du dehors, tout à coup, que j'ai été obligée d'assimiler, où j'ai cru, il fallait que je quitte quelque chose de ma langue première, de ma langue maternelle, pour pouvoir... apprendre l'autre langue. C'est comme si je ne pouvais pas avoir deux langues à cette époque. Parce qu'à la maison, on ne parlait que le kabyle. Dehors, il ne fallait parler que le français. En plus, c'est une génération, je suis partie d'une génération où mes parents me disaient tout le temps, surtout, fais comme les Français, ne fais pas de vagues, fais comme les Français. Il fallait absolument que je m'adapte. Et puis, ça a été très douloureux parce qu'à l'école, je ne comprenais rien. La maîtresse me disait des mots, c'était pour moi. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs aussi, parce que c'était des sonorités. Donc voilà, je dis, tiens, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est vraiment ne pas connaître la langue d'un pays, quoi. Mais très vite, assez vite, en fin de compte, la langue française s'est imposée. Donc, et que j'ai quelque part oublié cette langue d'où je viens, cette langue maternelle qui est derrière. Loin derrière maintenant. Donc dans le conte, c'est un peu ça dont je parle. Yem, pour survivre quelque part, il faut, comme je le dis, il faut accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Même si, quand même, on le rassure en lui disant, on rassure Yem en disant, ne t'inquiète pas, c'est au fond de toi et quelque part, tu ne le perds pas vraiment. Ce qui est juste. Parce que dans le conte, moi, c'est vrai que je ne pensais pas, hein, moi qui disais des textes en tant que comédienne, des textes classiques, du Molière, du Racine, des trucs comme ça, que je puisse raconter que des histoires qui, quand même, sont liées à mes origines. Voilà, c'est très fort quand même, parce que j'ai besoin quand même de cette culture, je m'en aperçois de plus en plus.
Et alors, il n'y a pas que la fourmi.
Non, il y a la huppe.
La huppe avec le langage, justement.
Avec le langage, tu lui apprends le langage. Pour moi, c'est ça.
C'est ça que tu évoquais, oui.
Pour moi, c'est quand je suis arrivée en France, l'extérieur où tout me fascinait et tout me, c'est un peu l'oiseau de la liberté, celui qui m'a appris aussi à être libre, à accepter. Voilà, c'est les gens qui m'ont appris aussi le langage, la façon d'être, comment j'ai pu m'assimiler. C'est pas le mot peut-être, mais parce que j'aime pas trop ce mot, mais oui.
Ne plus vivre en décalage.
Voilà.
On pourrait dire ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Ou en décali.
La vision du monde d'une façon. Moi, j'ai des très beaux souvenirs de mon enfance, du ciel gris, de la banlieue, des jeux. Pour moi, c'est cette magie aussi, ces couleurs, la couleur qui m'a entourée aussi, la couleur du monde, qui n'était pas la couleur du monde de ma maison, de l'intérieur, qui était plus nostalgique, qui était plus dans l'exil. Voilà, le monde extérieur que je trouvais beau, les couleurs, là, le monde, quoi. La vie.
Merci Annie. Est-ce qu'il y a des questions encore?
Il y en aurait beaucoup.
Ouais. Peut-être pour conclure une dernière chose sur le récit d'Yem. Comment ça se termine? Pour donner comment ça aurait pu se terminer pour donner envie à tous ceux qui n'ont pas forcément encore eu le temps de l'écouter, de le faire.
C'est-à-dire comment ça s'est terminé, comment parce qu'il est arrivé, enfin il va voir le soleil.
Oui.
Il va voir le soleil. C'est aussi la peur que la lumière ne revienne pas. On a tous cette peur en nous, hein. Et apparemment c'est une peur qui vient de la préhistoire où tous les hommes à la fin de la journée avaient peur que la lumière que le soleil ne revienne pas le lendemain. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on raconte des histoires et qu'on essaie de conjurer, en fin de compte, de le conjurer. Et Yem arrive à prendre un petit bout de soleil pour le ramener et pour illuminer son monde. C'est son soleil intérieur, en vérité. C'est trouver son soleil intérieur pour pouvoir continuer et que le monde s'ouvre, surtout. Voilà, ça se termine un peu comme ça.
C'est l'heure où les bébés pleurent.
J'entends rien.
Je dis, c'est l'heure où les bébés pleurent le soir.
Oui, c'est vrai. Oui, on est un peu toujours un peu nostalgique, un peu... Quand la lumière se couche comme ça, là, avant que ça peut... Même l'être humain, même les adultes, hein, on n'a pas forcément, pas tout le temps, quoi. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Annie.
Merci.